Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Sabine Caz.
Une nouvelle forme d'engagement moine dans les cités. Henri Quinson, vous avez 47 ans, vous êtes franco-américain par vos parents. Diplômé de Sciences Po, vous avez débuté une vie professionnelle que l'on peut qualifier de brillante. Spécialiste des options sur devises à la banque Indo-Suez, richement payé et sollicité pour des offres internationales de plus en plus alléchantes. Vous étiez également, à l'époque, chargé d'enseignement en troisième cycle aux universités d'Aix-en-Provence et de Bordeaux, ainsi qu'à Sciences Po, pour rendre vos étudiants imbattables sur les techniques de change. À 28 ans, vous démissionnez. Vous passez 6 ans à l'abbaye cistercienne de Tamiers. Vous y faites la connaissance de plusieurs des moines qui seront assassinés à Tibirine en Algérie. Mais vous êtes à la recherche d'une vocation qui tienne ensemble des réalités aussi différentes que la prière monastique, le travail à mi-temps dans l'enseignement, la présence dans les cités jusqu'à y vivre et même s'y loger, et la proximité avec les pauvres, notamment les familles et les enfants musulmans. Vous vous installez il y a plus de 10 ans dans une cité des quartiers nord de Marseille. Vous y fondez avec quelques autres une fraternité masculine, la fraternité Saint-Paul, à Marseille et puis plus tard à Boudouaou en Algérie. Et c'est ainsi que vous vivez aujourd'hui, moine des cités. Vous avez raconté votre parcours que vous définissez vous-même comme énigmatique, car la nouveauté de ce nouveau monachisme le rendit parfois ardu. Vous avez donc raconté votre parcours dans un livre publié récemment aux éditions Nouvelle Cité, qui s'intitule « Moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille ». Et au passage, on salue les éditions Nouvelle Cité, qui sont réalisées par les Focolari, dont la fondatrice Chiara Lubic est décédée cette nuit. Pendant ce temps, vous traduisez en français le livre « Passion pour l'Algérie, les moines de Tibirine », également aux éditions Nouvelle Cité. Ce livre obtient le prix des libraires Siloé 2006. Et vous publiez également « Prier 15 jours avec Christophe Le Breton ». C'est l'un des moines de Tibirine, assassiné en 1996 et que vous avez connu à Tamiers. Bonjour Henri Quinson.
Bonjour.
Alors, votre récit s'articule autour de deux parties qui ont un même fil conducteur, le terme métamorphose. La première partie de ce récit, métamorphose du dedans, et la seconde, métamorphose du dehors. Un livre d'un peu plus de 200 pages. Vous êtes passé avec ces métamorphoses de qui à qui, ou de quoi à quoi, ou de où à où. Vous avez bien fait des passages.
On reste le même, mais effectivement, il y a des transformations, on le voit dans une expérience humaine que tout le monde peut faire. Le simple fait d'arriver au monde comme bébé, de grandir physiquement, mais aussi de passer par des étapes de développement humain. Donc dans ce livre, je retrace un petit peu ces métamorphoses qui ont pu poser question à mon entourage, puisque comme vous l'avez bien expliqué en introduction, je suis passé de banquier gagnant très très bien sa vie, à tout d'un coup moine à l'abbaye de Tamiers, puisque ça a été une de mes premières métamorphoses, et puis donc habitant une cité HLM à laquelle je n'étais pas a priori destiné. Donc j'ai dû moi-même aussi me poser ces questions et vérifier s'il s'agissait là de développement humain valable, parce qu'on pourrait aussi à bon compte se donner bonne conscience en prenant telle ou telle décision, qui serait celle d'un bon chrétien. En fait, au départ de ces métamorphoses, je l'explique dans le livre, il y a avant tout une expérience spirituelle que j'essaye de décrire non sans difficulté, parce que à 20 ans, j'étais, je dirais, le bon petit consommateur occidental, j'écoutais la musique à la mode, tout allait bien pour moi, en plus j'avais une famille unie, rien à signaler d'extraordinaire, mais plutôt que des bonnes choses, et pourtant il me manquait quelque chose d'essentiel que je n'arrivais pas à définir. Et donc cette frustration, qui en fait était une frustration spirituelle, j'ai réussi à la combler grâce à un livre, ça aurait pu être un autre livre, c'était un petit livre de Carlo Caretto, un Italien, qui racontait sa propre expérience spirituelle, sa découverte de la prière. Et il disait qu'il ne s'agissait pas d'un livre pour expliquer et comprendre ce qu'était la prière, mais d'en faire l'expérience. Et donc je m'étais retiré dans ma chambre, j'étais un peu paniqué parce que comme adulte je n'avais pas fait d'expérience de prière personnelle, donc je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je m'étais mis à genoux et j'avais dit à Dieu, je crois quelque chose comme « bon bah si tu es là, manifeste-toi à moi », ce qui est une prière assez semblable à celle de Charles de Foucault. Et donc je dis dans le livre que bon, il est venu. Alors il est venu, c'est difficile à expliquer, mais j'ai fait à ce moment-là une expérience de plénitude personnelle que j'ai cherché à renouveler par la suite, qui correspondait en fait assez bien à des expériences qu'on retrouve hors du champ chrétien, puisque par exemple les bouddhistes parlent de l'illumination, donc une expérience qu'on pourrait qualifier de mystique, même si c'est peut-être un peu pompeux, mais donc n'importe qui peut la faire, hein, n'importe quel pauvre peut se tourner vers Dieu et être comblé par sa présence.
Et de façon inattendue, parce que vous n'attendiez pas particulièrement et c'est ça qui est venu.
C'est ça qui est venu, alors que en fait je ne savais pas à quoi j'allais faire face. Alors la question sur la métamorphose que vous posez est excellente parce que ça ne s'est pas arrêté là. On pourrait croire que finalement l'expérience mystique sous cette forme serait le sommet de la vie spirituelle, mais moi j'ai commencé à me poser des questions sur la réalité de cette expérience, c'est-à-dire est-ce que c'est simplement du cinéma intérieur, une espèce d'autosuggestion psychologique d'un occidental qui a tout mais qui s'ennuie ou voilà et qui se raconte des histoires. Et ça m'a conduit à lire beaucoup de livres sur les différentes religions. Je me posais carrément la question de savoir si être catholique, pour ce qui me concerne, c'était finalement le fin fond de la vérité. Pourquoi pas bouddhiste, pourquoi pas hindouiste, pourquoi pas musulman ou juif. Et donc j'ai lu toute une série de livres, et là j'ai eu une deuxième illumination, c'est celle, la rencontre du Jésus des évangiles, qui m'a réconcilié avec l'image de Dieu, puisque là je n'avais pas toutes mes réponses aux questions du mal en particulier.
Je voudrais juste signaler, parce que ça donne aussi l'un des aspects de votre récit, vous parlez de Dieu, et vous en aviez la perception un petit peu comme d'un haut-parleur, et vous mettez des majuscules, et on sourit à vous lire.
Oui. Le Dieu haut-parleur qui resterait là-haut dans son ciel et qui nous dirait en gros « Courage, il n'y en a plus pour longtemps, je vous ai créé dans une vallée de larmes, mais tout se passera bien si vous suivez les indications de ma loi qui sont dans mon livre, etc. » Et moi j'étais très fâché avec ce Dieu-là parce que je me posais la question de savoir pourquoi il avait créé plus de 6 milliards d'êtres humains pour souffrir et arriver éventuellement jusqu'à lui. Et encore, toutes les religions ne disent pas que la béatitude finale c'est d'être avec lui. Donc je me posais des questions à cet égard, et donc l'idée de ce Christ juif qui en fait est Dieu qui vient habiter parmi nous, et qui habite parmi nous pas simplement comme touriste pour venir prendre des photos de ses créatures, mais qui reste jusqu'à mourir injustement sur une croix, je me disais soit c'est une fable pour enfants de 3 ans, mais elle est très belle, soit c'est vrai et je voudrais en savoir un petit peu plus. Et alors je me suis rendu compte à ce moment-là, du point de vue des métamorphoses concrètes, que la découverte à la fois, cette expérience de prière, rencontre probablement de l'Esprit-Saint, cette découverte de Jésus-Christ dans les Écritures, et puis aussi des premières communautés chrétiennes qui me posaient vraiment question, puisqu'ils se faisaient manger par les lions, etc., je me disais, il y a un truc. Cette expérience-là, je me rendais compte, me transformait pas seulement moi dans ma relation à Dieu, mais dans ma relation aux autres. Et c'est là où l'aventure aussi commençait à devenir un peu sérieuse, parce que ça a commencé par des choses toutes bêtes, à savoir me rendre compte que ma mère, quand j'étais en vacances, faisait la vaisselle et que je pourrais peut-être aider. Et ça, c'était un fruit de la prière de tout d'un coup me poser des questions très concrètes sur les services que je pouvais rendre. Mais ensuite, compte tenu aussi de ma formation, je me posais la question de mes immenses privilèges matériels, et puis maintenant je me rendais compte de mon privilège spirituel par rapport à une foule de gens qui soit n'avaient rien à manger, soit n'avaient pas cette image de Dieu qui pour moi était libératrice, d'où la question que je me suis assez rapidement posée suite à ces expériences et ces découvertes. Quelle est ma place finalement dans l'Église et dans le monde par rapport à toutes ces réalités très contrastées? Et je me suis posé donc la question d'une vocation religieuse, et une des premières métamorphoses, c'était quand j'ai démissionné de ma banque pour entrer au monastère de Tamier. Et dans mon livre, je raconte les moultes hésitations et questions liées à cette décision, évidemment assez grave.
Pour vous, et puis pour votre entourage et votre milieu professionnel, qui évidemment vous voyez lancé dans un parcours qui avait toutes ses chances et toutes ses ouvertures, et puis hop, une sorte de rupture.
Voilà.
Très étonnante.
quel gâchis, ont dit certains. D'autres ont eu des réactions très positives en disant c'est vrai, on mène une vie de fou, pourquoi pas faire autre chose. Il y avait quand même une décision radicale, par exemple, de ne pas se marier, ce n'est pas anodin. Donc on est obligé de se poser des questions essentielles sur la fécondité d'un tel choix. Ma mère se posait la question de savoir pourquoi j'avais fait Sciences Po Paris pour aller fabriquer des fromages au fin fond de la Savoie. Donc c'était évidemment une première métamorphose assez coûteuse et qui posait beaucoup de questions à mon entourage, mais aussi à moi-même, comme je le dis avec sincérité, j'espère, dans mon livre.
Henri Quinson, on va s'arrêter quelques instants. Je rappelle donc le livre que vous venez de publier aux éditions Nouvelle Cité, Moine des Cités, de Wall Street au quartier nord de Marseille, par Henri Quinson. À tout de suite. Présence.
C'est pas normal de dire je t'aime à son enfant ou à son père. C'est pas normal de dire aimer un ami comme on aime un frère. C'est pas normal de visiter les vieux, les fous, les prisonniers. C'est pas normal de ne pas rendre le mal pour le mal qu'on t'a fait. C'est pas normal. C'est pas normal de louer Dieu pour le soleil ou pour la pluie. C'est pas normal d'oser bénir celui qui toujours te maudit. C'est pas normal de te donner quand tu pourrais penser à toi. C'est pas normal de partager quand tu pourrais garder pour toi. C'est pas normal. On n'a jamais autant parlé d'amour qu'aujourd'hui. On n'a jamais autant cherché un sens à nos vies. On n'a jamais autant couru après le bonheur. On n'a jamais autant perdu la paix dans nos cœurs. D'être fidèle, garder son corps et rester pur. C'est pas normal de pas profiter de la première aventure. C'est pas normal d'attendre encore quand le désir te tend la main. C'est pas normal d'aimer si fort, construire ensemble pour demain. C'est pas normal. C'est pas normal. Rester unis quand le meilleur fait place au pire. Quand on a mal, on est détruit. C'est pas normal de reconstruire. C'est pas normal d'aimer encore quand le plaisir a disparu. C'est pas normal d'aimer plus fort que tous nos sentiments perdus. C'est pas normal. On n'a jamais autant parlé d'amour qu'aujourd'hui. On n'a jamais autant cherché le sens à nos vies. On n'a jamais autant couru après le bonheur. On n'a jamais autant perdu la paix dans nos cœurs. Na 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 na.
Philippe de Courroux à l'instant, c'est pas normal, sur votre radio chrétienne, et on retrouve Sabine Caz et son invité.
Vivante Église. Son invité Henri Quinson. Henri Quinson, j'ai rappelé votre parcours que vous décrivez dans un livre que vous venez de publier aux éditions Nouvelle Cité, Moine des Cités. C'est ce que vous êtes aujourd'hui, moine, dans une cité des quartiers nord de Marseille. Et ce livre a comme sous-titre de Wall Street, parce que vous avez travaillé dans la banque et dans les options et dans le change et avec une dimension internationale. Vous avez démissionné à 28 ans. Nous en étions en quelque sorte là de votre parcours, vous démissionnez, vous passez 6 ans comme moine cistercien à l'abbaye de Tamier, vous êtes à la recherche et une sorte d'appel de vous intéresser aux familles et aux enfants musulmans. Et ça, on ne sait pas trop d'où ça vient, parce que rien ne vous prépare à cet intérêt pour l'islam et pour les musulmans.
Ce qui était très bizarre, c'est que avant d'entrer au monastère de Tamier, j'ai une vision que je raconte dans mon livre, alors une vision qui n'a rien pour le compte d'extraordinaire, c'est simplement que dans ma prière, je me vois dans mon imagination, à Marseille, que je ne sais d'ailleurs à l'époque pas écrire correctement, je mets un S à la fin comme on l'écrit en anglais, je ne connais absolument personne à Marseille, et je suis à Marseille, entouré d'enfants maghrébins auxquels je fais l'école. Je note ça dans mon journal parce que je commence à me demander s'il ne faut pas que j'écrive tout ça pour savoir où j'en suis, mais malgré tout j'entre donc au monastère de Tamier, et pour une raison un peu stupide, je ne peux pas faire ma profession définitive là-bas, et rester au monastère parce que j'y manque de sommeil, l'horaire trappiste permettant seulement d'avoir 7 heures de sommeil, et moi j'ai plutôt besoin de 8 heures. Donc pendant 15 jours ou un mois, on peut arriver à dormir moins, mais pendant toute sa vie, c'est trop juste. Donc je suis obligé de me poser la question de savoir si je peux vraiment faire profession définitive au monastère de Tamier, avec lequel je garde d'excellents liens, puisque j'y retourne tous les étés pour ma retraite annuelle. Et à ce moment-là, mon père abbé me dit, mais tu m'avais parlé de cette histoire de présence dans les banlieues, dans les quartiers où il y a une population étrangère importante qui n'est pas chrétienne, beaucoup de musulmans, et tu m'avais parlé de cette vision que tu avais eue, tu en avais parlé à ce moment-là à frère Didier, le frère qui s'occupait de l'hôtellerie à l'époque. Et il relance donc en quelque sorte cette idée qui déjà au cours de mon séjour et de ma vie à Tamier m'avait pas complètement quitté, qui revenait de temps à autre. Et finalement je me rends compte que oui, il y a visiblement quelque chose qui m'habite et qu'il s'agirait de vérifier. Et donc je pars à ce moment-là à la rencontre de différentes communautés.
Voilà une forme d'itinérance, hein, de communautés qui vivent un peu ce genre d'engagement.
Exactement. Et au contact de ces communautés, en allant vraiment sur le terrain pour voir un peu ce qui se vit et les défis qui nous sont lancés, prend progressivement corps donc l'idée de cette communauté, de cette fraternité Saint-Paul dans cette réalité humaine. Alors cette réalité humaine, pourquoi elle me pose question? Parce qu'en réalité, la question des banlieues, comme on l'appelle ici en France,
le problème, on dit même le problème.
Le problème des banlieues, donc avec en particulier en novembre 2005 une explosion qui a fait plus de dégâts matériels que même 1968, hein, il faut le rappeler. Donc un événement historique dans l'histoire de France, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur les causes ou les conséquences de cette explosion. En tout cas, n'importe qui de sérieux, suivant l'actualité, ce que j'ai commencé à refaire au monastère, puisque j'étais chargé en fait de la revue de presse pour les moines, donc j'étais plongé à nouveau après mon noviciat qui a duré 2 ans dans l'actualité, je voyais la montée de l'islamisme en Algérie, je voyais la montée des problèmes des banlieues en France, et je constatais statistiquement que nous étions dans une situation nouvelle en France, avec par exemple 10% de la population qui a des origines musulmanes. Je dis ça de cette manière-là pour bien montrer que les gens ne sont pas forcément tous des musulmans pratiquants, mais leur identité culturelle, leurs références familiales sont celles de l'islam, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, je me demandais si l'arrivée, surtout depuis la politique du regroupement familial des années 70, si l'arrivée en nombre d'un certain nombre de gens d'Afrique du Nord, surtout et en particulier d'Algérie, n'était pas pour moi une question qu'il s'agissait de regarder de près, puisque au XIXe siècle, il y avait par exemple la question ouvrière. Est-ce qu'aujourd'hui, pour l'Église, il ne fallait pas faire en sorte que nous soyons dans une rencontre avec ces personnes qui n'avaient pas de lien historique avec l'Église? Alors j'étais bien embêté parce que j'avais pas de solution à offrir toute faite, c'était une réalité nouvelle. J'avais conscience que nous étions les héritiers aussi en la matière de la mission ouvrière qui était présente aux ouvriers, mais je me rendais compte aussi que la question n'était pas posée exactement dans les mêmes termes. Nous n'avions pas dans ces quartiers-là une forte présence du Parti communiste, au contraire, nous vivions le déclin du Parti communiste. À l'époque, donc, l'URSS s'était effondrée, on n'avait pas du tout une présence à des ouvriers athées. Il s'agissait d'accueillir des étrangers pauvres dont la religion, pour la plupart d'entre eux, était l'islam, une problématique très différente. En plus, un contexte qui n'était pas le plein emploi, mais le chômage. Donc, est-ce qu'il ne fallait pas un type de présence qui soit avant tout une présence territoriale, de type monastique, justement, parce que le monastère, c'est le choix, bon, c'est le célibat, mais c'est aussi le choix d'un lieu. Les pères du désert choisissaient les déserts d'Égypte, qui n'étaient pas simplement des lieux de silence et de solitude, mais qui étaient en fait la périphérie de l'Empire romain converti au christianisme après Constantin. Et les moines, en fait, par cette geste prophétique, soulignaient leur désir de montrer que, bon, le christianisme, c'était pas simplement faire partie d'une société chrétienne où on est l'ami des riches et des puissants, mais c'est protester aussi et prendre sa vocation chrétienne au sérieux. Et les déserts d'Égypte, c'était aussi les endroits où tous les gens qui fuyaient le pouvoir en place parce que c'était des voleurs ou alors qu'ils étaient en rupture de ban sur le plan politique, etc., pouvaient rejoindre ces déserts qui étaient des lieux arides, des lieux jugés dangereux par beaucoup de gens. Et donc, les cités HLM aujourd'hui ressemblent un petit peu à ces lieux qui sont périphériques, qui sont un peu rudes, qui sont, aux yeux de certains, dangereux à certains égards, mais qui en même temps sont des lieux évangéliques, des lieux porteurs d'une symbolique du royaume de Dieu, où finalement le chrétien va venir aussi partager la condition de gens qui n'ont pas choisi ces conditions difficiles, tisser des liens, et donc être présent, non pas dans une insertion par le travail, comme c'était le cas par exemple des prêtres ouvriers ou des petits frères de Jésus dans les années 50-60, mais être présent par le fait qu'il y a une porte ouverte dans un quartier habité par des gens qui nous sont différents, qui n'ont pas de lien avec nous.
Alors aujourd'hui, on va passer sur un certain nombre d'épisodes et de recherches. Aujourd'hui, vous avez fondé une fraternité qui s'appelle la Fraternité Saint-Paul. Aujourd'hui, vous êtes quatre à Marseille et il y a également une fraternité en Algérie, à Boudouaou, c'est près d'Alger. Comment vous vivez? Qu'est-ce que vous faites? À quoi ça sert? Qu'est-ce que vous faites par rapport à l'islam? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette forme un peu de monachisme nouveau qui a d'ailleurs, qui est assez présent également aux États-Unis et qui, en France commence.
Alors l'idée maîtresse, c'est vraiment de reprendre les valeurs traditionnelles de la vie monastique qui est articulée autour de la prière. Donc le matin à 6h, nous avons un office qui est un office monastique tout à fait comparable à celui de l'abbaye de Tamier. Si nous sommes un petit peu en retard, nos voisins musulmans nous disent « Ah, vous aviez 3 minutes de retard » parce que les cloisons ne sont pas parfaitement étanches. Et puis après, nous avons un temps de lectio divina, donc une lecture priée des Écritures qui est également dans la tradition monastique. Et puis nous avons un travail à mi-temps, donc nous ne travaillons qu'à temps partiel pour dégager suffisamment de temps pour la prière le matin, mais on a également une prière le soir à 19h, et puis une prière à midi quand nous sommes ensemble pour le repas. Et ce travail à mi-temps nous permet donc plus de temps pour la prière et aussi un temps pour l'accueil des voisins, puisque la vie monastique c'est ora et labora, prière et travail, donc on a ces deux composantes, mais également l'hospitalité. Même les pères du désert, dans les déserts d'Égypte, avaient une cellule pour l'hôte. Donc dès le départ et dans la règle de Saint-Benoît, il y a l'existence de la porterie et de l'hôtellerie, et donc l'accueil de l'étranger et du pauvre dans la règle de Saint-Benoît est extrêmement important, puisqu'il y est dit que c'est le Christ lui-même qu'on accueille.
Donc ça va et ça vient chez vous.
Voilà, alors le matin est plutôt le temps du silence, la cité est relativement silencieuse, et donc on peut vivre cet aspect de la vie monastique qui est plutôt fait de recueillement, de prière, de lecture. Mais l'après-midi, comme vous dites, ça circule. Et donc, il y a toujours quelqu'un, tous les jours de l'année, l'après-midi, chez nous. Donc, par roulement, il y a toujours un frère qui est responsable, donc, en quelque sorte, de la porterie, hein, d'être là, dans l'un de nos appartements, puisque nous en avons 3 maintenant sur la cité, à Marseille. Et cet accueil est multiforme. Il peut y avoir des étrangers qui ne savent pas très bien lire et écrire, qui vont venir pour qu'on puisse remplir des papiers administratifs. Très rapidement, on se rend compte que derrière le papier administratif, il y a souvent le désir de partager des souffrances, des soucis familiaux, et également parfois des questions qui sont plutôt des questions religieuses ou théologiques. Et derrière les difficultés avec l'administration, on peut parfois exprimer ces difficultés avec Dieu lui-même, et ça donne lieu à des débats et des réflexions, et surtout des échanges qui permettent d'affronter ces difficultés avec espérance. Et puis après, il y a l'accompagnement scolaire qui nous a été demandé aussi par les familles. Donc ça, j'insiste beaucoup sur le fait que nous ne sommes pas arrivés avec des idées.
Programmes.
Voilà, un programme. C'est pas du tout un programme missionnaire ni un programme caritatif qui consisterait à dire voilà, on va aller s'habiter, on va habiter là et on va faire ça et ça et ça. Au début, quand nous sommes arrivés sur le quartier, nous disions aux gens qui nous posaient souvent la question, mais alors ils avaient repéré que c'était plus ou moins des curés, ils savaient pas trop, ils n'avaient jamais vu de chrétiens de leur vie, donc ils savaient pas à quoi s'attendre, et ils nous disaient, mais alors vous faites quoi vous? Sous-entendu, bon, vous allez nous fournir du beurre gratuit, des papiers, des sorties, du loisir, et on répondait de manière un peu provocatrice, mais réelle, que nous ne venions pas pour faire quelque chose, nous n'avions rien à proposer a priori. Mais rapidement, ils se sont rendus compte, nos voisins, que nous savions lire et écrire. Il y a eu une mère de famille qui m'a demandé de m'occuper de son enfant. Et donc, l'accompagnement scolaire est né avec un enfant qui est venu après avec deux de ses amis. Et puis après, plus de monde. Et donc, nous pouvons aller jusqu'à 80 personnes le soir chez nous, trois soirs par semaine. Et il a fallu faire venir des personnes de l'extérieur, car nous ne pouvions pas, simplement, les frères qui habitent sur place, répondre à cette demande.
Donc, à la fois des lycéens, puisque vous êtes enseignant, hein, et puis des gens du quartier, des gens un peu plus loin qui viennent pour participer à cet accompagnement scolaire. Tout ça, c'est gratuit, tout ça, c'est bénévole.
C'est tout bénévole, c'est tout gratuit, et c'est pas simplement une aide scolaire, mais également une rencontre qui nous paraît extrêmement importante, parce que autant il est nécessaire d'habiter sur le quartier pour créer ces liens de confiance, autant il est important de créer des relations entre le quartier et le monde extérieur, à la fois pour le quartier lui-même, pour que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas des pestiférés, que tous les Français ne sont pas des racistes, que des chrétiens et des musulmans peuvent aussi se rencontrer sur des questions d'ailleurs qui ne sont pas confessionnelles et pas théologiques, puisque par exemple l'entraide scolaire est quelque chose qui n'a pas a priori de caractère religieux. Et donc symboliquement, culturellement, ces rencontres entre des mondes qui s'ignorent permettent à ce moment-là de construire un monde nouveau qui pour moi ressemble à des prototypes, c'est-à-dire l'humanité nouvelle qui sous nos yeux est en train de se créer, en opposition justement aux stéréotypes. Et je raconte dans mon livre quelques histoires où des gens peuvent être agressés, mais ceux qui sont agressés, ce sont des stéréotypes. On va s'en prendre au paillot, c'est l'expression qu'on utilise à Marseille pour décrire les gens qui n'habitent pas les cités. Donc on va s'attaquer à un paillot, mais en réalité, le même paillot qui vient chaque semaine à la cité Saint-Paul, accueilli par des enfants et des familles qui ont exactement la même sociologie que l'agresseur d'à côté, au contraire accueille très bien ces gens. Pourquoi ? Parce que, en fait, ils les appellent par leur prénom, parce qu'ils ont des relations personnelles, et qu'ils se rendent compte que, à travers ce service, l'amour de Dieu, qu'il y ait une signature officielle ou pas, on s'en fiche, mais le royaume de Dieu qui consiste à être tous frères universels, sans distinction de race et même de religion, cet amour-là existe concrètement et produit des fruits de paix qui intéressent évidemment la ville de Marseille.
Alors justement, on s'arrête quelques instants, Henri Quincent, et quand on vit comme ça, qu'est-ce qui se passe et quel type de fruits ça produit? À tout de suite.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Fier de survivre dans une époque difficile, je me bats contre des moulins sur une île qui fait le tour de la terre et je roule comme une pierre. Peur, je voudrais me sentir fort de tous mes rêves, me tenir bien droit dans le jour qui se lève, dans ces limites qu'on m'impose, au fond il me manque une chose, un frère, un ami, qui me protégera quand viendront les ennuis, qui partagera tout, que je pleure, que je vis, toujours là pour me comprendre, toujours là pour me défendre, un frère, un ami. Il me reste tant de belles choses à connaître.
les pages qui s'envolent dans ma tête. La famille étant indienne, me faudrait pour qu'elle revienne un frère, un ami. Celui-là sera ma mémoire si j'oublie. Il pourra me faire y croire fort si je puis. Que les étoiles virent ce qu'elles veulent. Ah, je ne serai jamais seul. Un frère, un ami. Qui lèvera son verre avec moi au galère. Mon père craint de devenir vieux ou un mère. Un ami qui dans ce monde va paraître la route moins longue. Je ne veux que quelqu'un qui sera de tout prendre. Prêt à déclarer son coup ensemble. Tous les autres cherchent à m'oublier, me jeter. Meilleur ami qui sera comme un frère. Jamais je ne laisserai la dernière. Ne jetterai jamais la première pierre, ni la dernière. Frère, un ami qui ne me jugera jamais quoi que l'on dit. À qui je donnerai ma confiance, ma chemise. Même s'il doit partir un jour, il restera pour toujours mon frère, un ami.
Un frère, un ami, c'était Rock Voisine à l'instant sur votre radio chrétienne. Et tout de suite, c'est la troisième partie de votre magazine.
Vivante Église. Henri Quinson, je rappelle que vous nous parlez de votre vie dans le cadre de la fraternité Saint-Paul que vous avez fondée, une fraternité masculine où vous êtes aujourd'hui quatre à Marseille et un à près d'Alger, une fraternité qui vous fait moine dans les cités, c'est ainsi que vous vous définissez dans le livre où vous racontez votre parcours, moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille. Vous êtes présent à vos voisins, vous aidez pour les papiers, tout ça de façon gratuite et bénévole, vous faites beaucoup d'accompagnement scolaire, vous êtes présent à vos voisins, très majoritairement musulmans, et on imagine bien que vous ne cherchez pas à les convertir. Mais tout de même, est-ce que vous avez un ordre, une espèce d'objectif missionnaire? Qu'est-ce que ça produit comme fruit? Humain, on imagine bien, sociaux, on espère, spirituel, peut-être?
Alors, missionnaire, oui, parce que on s'aperçoit que quand on fait une relecture historique, factuelle, de la vie monastique en Europe, en fait, l'Europe a été évangélisée principalement par les moines qui sont, a priori, c'est comme ça qu'on les comprend souvent en France aujourd'hui, des gens qui se situeraient justement au désert, à la marge, plutôt en retrait du monde, voire en fuite du monde, même si ces expressions, je pense, sont difficiles à maintenir après le Concile Vatican II qui nous invite à une ouverture au monde. Et puis dans une perspective biblique, je crois que Dieu vient habiter parmi nous, fait alliance avec son peuple, et que, donc l'Église, le royaume de Dieu se construit dans l'histoire, donc en aucun cas ne peut faire l'économie d'une relation avec le monde environnant. Mais on s'aperçoit que les moines, en fait, bien qu'effectivement il s'agit avant tout de prier et de travailler et d'accueillir, ont choisi en Europe toujours... ou en tout cas très fréquemment, des lieux dans lesquels l'Église n'était pas forcément présente. Il y a eu tout un monachisme missionnaire avec les Irlandais. Je reviens d'un voyage en Belgique, il y a beaucoup de villes encore qui portent le nom de moines irlandais qui ont évangélisé cette partie de l'Europe. En France, la figure de Saint-Martin, beaucoup de villages portent le nom de Saint-Martin. Saint-Martin était un moine qui est après devenu évêque, mais qui donc avait aussi ce rayonnement sur les environs. Aujourd'hui, en Afrique, et dans beaucoup de pays qui ne sont pas des pays chrétiens au départ, on a des monastères constitués de petits groupes de moines qui ont une influence très importante sur le plan du développement, mais également sur le plan spirituel et religieux autour d'eux. Et donc la question pour nous aujourd'hui, pour l'Église, c'est effectivement comment faire en sorte que nous puissions être présents dans ces nouvelles réalités humaines. Sommes-nous missionnaires là? Je reprends moi volontiers la phrase de Christophe Le Breton, donc le plus jeune des frères de Tibirine que j'ai connu, puisqu'il était issu lui aussi de l'abbaye de Tamier, comme moi. Il disait, il avait quand il était enfant le désir de devenir missionnaire. Finalement, il est devenu moine, et on peut penser que le moine se tait, il ne fait pas de baptême, pas de mariage, donc on le voit pas très bien dans la figure du missionnaire. Et il se trouve qu'il choisit le pays un peu décalé par rapport à ses origines de l'Algérie, et avec lequel il n'avait pas de lien par la guerre d'Algérie, mais il avait été comme coopérant là-bas. Et réfléchissant sur cette question de la mission, il dit dans un de ses derniers écrits, « Je prends de plus en plus conscience d'une mission, devenir frère. » Donc il ne définit pas du tout sa mission en termes de confessionnalité, même si quand on est en contact avec des moines chrétiens, il peut arriver, et c'est notre expérience aussi, que par exemple des musulmans demandent le baptême au bout d'un certain nombre d'années à cheminer ensemble. C'est des choses qui arrivent, et évidemment nous en sommes tout à fait heureux. Mais l'évangélisation, c'est d'abord notre propre évangélisation, c'est-à-dire la mission, c'est de devenir nous-mêmes chrétiens. Et pour les autres, le fait que nous devenions chrétiens veut dire que nous devenions les frères de tous les hommes. Alors, frères de tous les hommes, on peut le dire dans nos homélies tous les dimanches, mais si dans nos assemblées, il n'y a pas les personnes qui viennent d'arriver en France, ça fait un peu bizarre. Et si, n'étant pas présents dans ces assemblées, nous ne nous rendons pas nous-mêmes présents le reste de la semaine après cette Eucharistie dominicale auprès de ces gens qui viennent d'arriver en France, à ce moment-là, il y a contradiction entre ce que nous célébrons et ce que nous cherchons à vivre. Donc on voit bien que le mouvement missionnaire, c'est quelque chose qui est au cœur même de Dieu, puisque Dieu est venu habiter parmi nous, et dans ce processus de ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation, des mots un peu, peut-être un petit peu difficiles à comprendre, mais l'idée que Dieu se fait homme, qu'il vient nous rejoindre, qu'il vient partager notre existence, nous met en route, nous, moines des cités, pour aller habiter, déjà, dans un premier temps, avec les gens qui, a priori, nous étaient lointains, avec qui nous n'avions pas de contact. Pas effectivement dans une idée prosélyte qui consisterait à dire, voilà, à la fin de l'année, il faut ce chiffre d'affaires de baptiser, sans quoi on ira ailleurs. C'est pas du tout ça l'idée. Mais il s'agit de proclamer une réalité qui est celle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le fait que, c'est dans le chapitre 25 de Matthieu, que les étrangers sont accueillis. Celui qui a faim est nourri, celui qui a soif a de quoi boire, celui qui est malade est visité, le prisonnier aussi. Et donc il y a là sept éléments concrets, et on pourrait évidemment en rajouter beaucoup d'autres, qui montrent que le royaume de Dieu ne consiste pas à mettre un t-shirt « I love Jesus », ne consiste pas à brûler des cierges devant un statut de la Vierge Marie, toutes choses qui ne sont pas mauvaises, mais qu'on peut faire, mais l'essentiel du royaume de Dieu, et ce sur quoi nous sommes jugés, Dieu merci, par l'amour, mais avec miséricorde, mais ce sur quoi nous sommes jugés, ce que nous sommes appelés à vivre, c'est cet amour fraternel qui est un amour universel, qui n'a pas de frontières. Donc il s'agit d'aller à contre-courant des logiques de ségrégation qu'on voit dans notre société, et là aussi il faut être très compréhensif, c'est assez logique. Quelqu'un qui est père ou mère de famille va vouloir que l'environnement social soit le plus porteur pour ses enfants, mais ça conduit à un système de chaises musicales en France, dans lequel finalement, il y a une relégation de fait des derniers arrivés, des plus pauvres, qui sont souvent très dynamiques, moi c'est le constat que je fais, et donc qui, Dieu merci, peuvent progressivement trouver leur place dans la société française, mais non sans difficulté, parce que finalement, les gens ont tendance à aller habiter les meilleurs quartiers.
On va signaler, Henri Quinson, au passage, que cette fraternité Saint-Paul est en lien avec la paroisse, elle est attachée à une paroisse, elle est en lien, vous êtes en lien avec l'évêque de Marseille, c'est la même chose en Algérie. Vous n'êtes pas particulièrement impliqué dans le dialogue chrétien-musulman, vous vous êtes pas particulièrement spécialisé dans l'islam, vous restez ce que vous êtes chrétien, et vous dites dans votre livre, nous sommes distincts, mais non distants.
Voilà, c'est une expression, alors forcément limitée, mais qui voudrait dire que il s'agit de se rendre proche des gens, Donc, de ce fait-là, nous ne sommes pas distants, mais en même temps, nous assumons la réalité qui est que nous sommes chrétiens, nous nous inscrivons dans une tradition spirituelle, nous sommes reliés institutionnellement, même si on n'aime pas l'institution Église, mais elle existe forcément, puisque nous faisons partie d'un corps qui est l'Église, et donc nous sommes baptisés, nous allons à la messe le dimanche, nos voisins le savent, nous avons des icônes dans notre appartement, nous les aimons, il y a des croix également qui posent parfois problème au départ à certains de nos voisins, mais nous les maintenons, ils savent que nous prions, et donc il n'y a absolument pas de camouflage dans ce que nous sommes. Nous vivons un enfouissement, nous disait le cardinal Panafieux, qui n'est pas camouflage. Donc de ce point de vue-là, il y a une insertion dans le quartier, mais également nous sommes reliés à l'Église locale et universelle de manière tout à fait claire. Alors double appartenance, pourrait-on dire, est essentiellement une appartenance charnelle de rencontres, qui fait que c'est plus de rencontres interreligieuses que de dialogues interreligieux que nos journées sont faites au départ. Ça n'empêche pas qu'effectivement, quelquefois, il y a dialogue interreligieux, c'est-à-dire une conversation avec certains de nos voisins sur des questions qui sont spécifiquement religieuses. Mais je dis toujours que pour pouvoir discuter avec quelqu'un et éventuellement risquer des questions qui pourraient être embarrassantes pour les uns ou pour les autres, on ne peut le faire que dans un climat de confiance et, je dirais vraiment, c'est des mots forts, mais d'amour réciproque. Comment peut-on savoir que quelqu'un vous aime ? Eh bien, je crois que c'est avant tout si vous avez, par exemple, accueilli des semaines durant des enfants de la famille pour les aider à l'école gratuitement, si vous êtes allé à l'enterrement du père quand il est décédé. C'est à ce moment-là que si vous revenez d'un voyage en Algérie et qu'on vous demande comment ça s'est passé là-bas, et qu'il s'agit de voisins français mais d'origine algérienne, vous dites que j'ai été très bien reçu en Algérie, mais que, ah tiens, il y a eu par exemple une réunion avec des chrétiens, mais c'était difficile pour des raisons de sécurité, il fallait un peu se cacher, et c'est pénible à vivre. Là, cette réalité-là, qui n'est pas forcément d'ailleurs de leur responsabilité, mais je peux parler des choses aussi qui vont moins bien, en posant la question, bon, d'où ça vient, pourquoi, etc. Donc, on peut se risquer à ce moment-là un dialogue sur certaines questions, qui seraient sinon très vite reléguées dans la catégorie de l'islamophobie, le néocolonialisme, le racisme. Et on comprend très bien que avec quelqu'un à qui on a donné des preuves d'amour concrètes, à ce moment-là, on peut parler plus sérieusement et pas simplement faire des monologues qui seraient faussement consensuels. Alors c'est vrai aussi pour nous, c'est-à-dire que moi je donne tout à fait le droit à nos voisins de nous dire, voilà, l'Église n'est pas assez présente dans les quartiers, ou alors qu'on me parle à nouveau des croisades de la Grande Inquisition, donc je crois que c'est important aussi de se remettre en cause, mais je crois qu'on peut vraiment avoir un véritable échange verbal, uniquement s'il y a d'abord eu cet engagement charnel, et pour les chrétiens, c'est vraiment le prolongement, encore une fois, du mystère de l'incarnation. Si Dieu lui-même, à travers son Fils Jésus, a voulu passer 30 ans à habiter parmi nous sans ouvrir la bouche, quasiment, pour simplement prendre la parole dans ces 3 dernières années d'existence, ça veut bien dire qu'il y a une lente germination, un patient travail de voisinage d'abord à accomplir avant de prendre la parole. Donc je pense que la rencontre interpersonnelle est un préalable indispensable à un dialogue interreligieux.
On s'arrête quelques instants. Henri Quinson, je rappelle votre livre « Moines des cités » publié aux éditions Nouvelle Cité.
Présence.
Quand le facteur part en tournée, on l'entend toute la matinée fredonner. Parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Et le peintre en bâtiment, quand il repeint l'appartement, chante gaiement l'air de Guillaume Tell sur sa grande échelle. Parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Mais le notaire qu'on voit passer avec son œil glacé, sa petite serviette, son pardessus, et son air compassé, rasant les murs du vieux lycée, à petits pas pressés. Oh, qu'il est triste, triste, triste. Alors moi, quand ça ne va pas, ben j'ai compris, je chante comme ça, tra-la-la. Parce que ça me donne du courage, ça me remet le cœur à l'ouvrage. Sans tic-tac, l'horloge s'arrête, sans clochette, pas de troupeau. Sans amour, les gens s'embêtent, sans chanson, pas de cœur au boulot. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Quand le facteur part en tournée, on l'entend toute la matinée fredonner. Parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'orage. Et le plongeur de la guinguette, quand il jongle avec les assiettes, chante à Pipette l'air de Miss Elliott et l'escarpolette. Parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Monsieur Mathieu, le contentieux, 37 rue Richelieu, un triste lieu sombre et crasseux, tout plein de papier bleu, des lunettes noires qui lui font voir un monde sans espoir. Ah, qu'il est triste, triste, triste. Alors moi, quand ça ne va pas, ben j'ai compris, je chante comme ça, la la la, la la la. Parce que ça me donne du courage, ça me remet le cœur à l'ouvrage. Sans tic-tac, l'horloge s'arrête, sans clochette, pas de troupeau. Sans amour, les gens s'embêtent, sans chanson, pas de cœur au boulot. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Sans chanson, pas de cœur au boulot.
C'était Enzo Enzo sur Radio Présence. Et tout de suite, la dernière partie de votre magazine.
Vivante Église. Henri Quinson, au-delà d'une vocation assez audacieuse et atypique, moine des cités, qui d'ailleurs, vous l'expliquez dans votre livre, consonne tout à fait avec des gens comme Madeleine Delbrel, par exemple. Une vocation qu'on peut beaucoup admirer. Vous vivez en logement assez HLM, c'est pas toujours tous les jours simple. Il y a tout de même une responsabilité que nous partageons tous par rapport, entre guillemets, à ce problème des cités, à cette présence des musulmans en France, qui nous concerne de tous et particulièrement peut-être les chrétiens.
Oui, je pense que ça serait voilà une idée, une sorte d'autre fuite que de considérer que voilà, il y a quelques personnes exceptionnelles qui vont aller habiter dans ces quartiers épouvantables, n'est-ce pas? Alors que d'ailleurs souvent c'est des quartiers très très attachants par bien des côtés. Mais plus important encore, et vous faites bien de le souligner, il faut se rendre compte que chacun d'entre nous, nous avons une part de responsabilité, mais surtout je dirais une part de joie qui consiste à accueillir cet autre nous-mêmes qui est cette humanité qui nous rejoint là de manière un peu nouvelle. Et il y a bien des manières de le faire. Quand nous habitions sur notre quartier, nous avons effectivement commencé, Karim et moi au début à deux, après nous avons été rejoints par Jean-Michel, et puis après deux autres frères, et puis un couple qui habite avec nous. Là c'est une possibilité aussi pour certaines personnes d'habiter quelques années dans la cité. Il y a également donc une soixantaine de personnes qui collaborent avec nous, par exemple pour l'accompagnement scolaire. Mais au-delà de ça, je crois que c'est important que par vagues successives, à travers différents canaux, ça peut être des gens qui justement viennent sur le quartier, qui font de l'accompagnement scolaire, et je sais qu'il y a beaucoup de formules d'accompagnement scolaire à travers des associations ou des communautés, y compris ici dans la région. De cette manière-là, c'est déjà rejoindre les gens, mais après aussi, on retourne dans le milieu où l'on travaille. On peut se retrouver, par exemple, responsable de l'embauche d'un certain nombre de personnes dans une entreprise, et je crois que c'est important important que chacun, à son niveau, puisse être sensible, non pas pour faire de la discrimination positive, ou en renversant les choses forcément, mais au moins être attentif au fait qu'il s'agit d'accueillir une certaine diversité dans notre société, qui est aussi la rencontre d'autres cultures où nous-mêmes nous avons à partager nos richesses culturelles ou religieuses. Mais à travers la vie sociale, je crois que c'est important que beaucoup de personnes se rendent compte que si nous ne prenons pas à bras le corps ces questions, elles risquent de se retourner contre nous. On peut se retrouver avec une humanité morcelée, y compris dans notre pays, alors même que c'est une chance absolument extraordinaire, une grâce incroyable, de retrouver ceux qui étaient nos envahisseurs, n'est-ce pas, par le djihad à une certaine époque, et nous les croisés colonialistes, etc., à une autre, que nous nous retrouvons maintenant ensemble dans certains de nos immeubles, que à travers la vie urbaine, les gens circulent aussi dans différents lieux des espaces publics, et qu'il s'agit donc de se rencontrer. Et je crois que ces rencontres se font tout naturellement. Quelquefois, elles vont très loin, puisqu'en France, il y a beaucoup, beaucoup de mariages mixtes, et que cette diversité dans nos écoles, dans les entreprises, dans les administrations, chacun à son poste peut très bien le vivre de manière très modeste. Et je crois beaucoup aux petites choses qui font vraiment avancer en profondeur ces questions. Il serait trop facile de s'imaginer qu'on peut acheter la paix sociale, qu'on peut acheter, n'est-ce pas, une espèce de consensus interculturel ou interreligieux en déversant de l'argent sur les cités, en repeignant, ce qui est sans doute nécessaire, les façades. C'est beaucoup plus profond que ça. Il faut que chacun puisse, ça peut être une rencontre dans l'année, et tout à fait fortuite, mais au moins savoir saisir cette opportunité d'accueillir l'autre dans son étrangeté, parce que les gens sont très très sensibles au fait qu'ils soient reconnus comme personnes humaines. Donc ces occasions de rencontre sont multiples, ça peut être aussi même une rencontre tout à fait inopinée dans le métro parce que quelqu'un vous demande sa route. Je crois que tous ces regards échangés, toutes ces paroles échangées dans la vie ordinaire sont vraiment les meilleurs garants d'une reconnaissance mutuelle qui seule permettra à ce moment-là de proposer ce que nous chrétiens avons comme plus grand trésor, je pense, qui est effectivement la connaissance de Dieu par Jésus-Christ, un Dieu qui justement est celui de la fraternité universelle. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout l'apanage des moines des cités, et le fait que ce mouvement de prise de conscience et également d'initiative se réalise en fait un peu partout, à travers ces petites communautés, ne doit pas donner l'impression que c'est l'affaire seulement de spécialistes. Ça c'est quelque chose qui me paraît tout à fait important.
Pour approfondir donc ce dont nous avons parlé, votre livre « Moines des cités » de Wall Street au quartier nord de Marseille, publié aux éditions Nouvelle Cité. Je rappelle les livres, vous êtes le traducteur du livre de John Kaiser, « Passion pour l'Algérie, les moines de Tibirine » et puis « Priez qu'un jour » avec Christophe Le Breton. Je signale que l'on peut vous joindre si l'on veut partager avec vous à l'adresse mail suivante. Henri avec un Y, henri.quinson@orange.fr, et que la Fraternité Saint-Paul a un site internet.
Tout à fait.
Voilà, dont vous nous donnez l'adresse.
Je crois que le plus simple, c'est d'aller dans un moteur de recherche que je ne nommerai pas et de taper tout simplement Fraternité Saint-Paul, Marseille peut-être, et vous trouverez en haut de la liste notre site.
Merci Henri Quinson. Ce magazine Vivante Église était réalisé par Francky Guéret et produit par Sabine Caz.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 ou écrivez-nous par mail à contact@radioprésence.com.